Les relations fraternelles. Selon le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, voici le thème, le sujet de ce soir. Quels sont les points communs qui nous rassemblent ici, à Bals? Certainement le fait de partager cette parole précieuse, la parole de Dieu. Certainement aussi, nous pourrions dire, l'expérience personnelle, individuelle, du salut en Jésus-Christ. Nous avons déjà là une partie du thème du début de l'Épître aux Romains, d'ailleurs. Mais tout en ayant ces points communs, nous avons aussi des opinions différentes, selon les sujets. Et nos débats le montrent bien. Et peut-être que, suite à ces débats et à ce qui s'est exprimé, nous avons perçu, quelque part, qu'il serait difficile de nous côtoyer au-delà de ces quelques jours, parce que nous nous disons, tiens, une opinion comme celle-ci, je ne la partage pas et j'aurai du mal. Alors la question qui nous est posée, c'est sommes-nous appelés à vivre ensemble, même avec des opinions très différentes? Et ce matin, dans l'exposé de Pierre-Henri, les différentes options possibles, nous avons bien vu qu'il pourrait y avoir matière à discussion. Est-ce qu'une opinion, la bonne bien sûr, doit prévaloir? Et si oui, comment la trouver? Que devient dans cela, et c'est le thème de ce soir, la relation fraternelle? Parce que ce soir, nous allons voir la relation entre les opinions et la relation fraternelle. Et comment et jusqu'où cohabiter? Alors, j'ai eu amplement l'occasion de réfléchir à ces choses au cours de mon parcours personnel. Né dans une famille d'origine protestante réformée, dont certains étaient inscrits dans des villages, et on a retrouvé des patronymes et des noms de villages au musée du désert par rapport aux galériens, donc probablement une partie des ancêtres ayant participé à ça, des grands-parents fort éloignés, élevés dans le libéralisme du début XXe siècle, et on va dire l'hypocrisie qui pouvait aller avec en tant qu'église de multitude, des parents ayant tout rejeté, athées pratiquants, une éducation sans aucune référence à la parole de Dieu. Et puis à 17 ans, rencontre de chrétiens protestants réformés réveillés, de chrétiens catholiques charismatiques. Premier été, une sœur me donne un catéchisme catholique à lire, que j'examine et sur lequel, et voilà déjà l'œuvre de l'esprit, il y a des points où je dis ça c'est vrai, et il y a d'autres points où ça n'a pas l'air vrai. Et puis, les études, rencontre d'autres chrétiens, partage de chambre avec un chrétien arménien orthodoxe. Église baptiste, rencontre de mon épouse, mariage, baptême et mariage dans cette église, départ en coopération en Afrique, église dite évangélique, en fait église réformée, de liturgie réformée, groupe de prière pentecôtiste, retour en France, un peu d'église baptiste, église d'assemblée de frères dite large, venu à Valence, église évangélique libre, puis église de l'Épève, issue des assemblées de frères, un petit passage dans un autre milieu, retour dans cette église, autant d'occasions d'être confronté à des opinions différentes, fondées après tout sur la même parole de Dieu. Comment et jusqu'où cohabiter? Alors l'Épître aux Romains, j'ai fait figurer ici la grande synagogue de Rome qui est au bord du Tibre. Pourquoi? Parce que Paul était un pharisien, vous le savez, il était respectueux de la loi, et nous allons lire dans Actes 28, le verset 17, avant de venir sur l'Épître, proprement dite. Lorsque Paul rencontre les Juifs, Actes 28, 17, il est dit au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles, « Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison et de Jérusalem livré entre les mains des Romains. » Alors voilà déjà Paul au cœur de ce qui va être finalement le terreau de développement, mais aussi la base des tensions possibles, à savoir la synagogue, une forme, on pourrait dire, de présence du peuple de Dieu dans la synagogue, et puis l'Église, cette Église qui se développe. Alors, le contexte de l'Épître aux Romains. Brossons rapidement, à ma sauce, et les premiers chapitres, avant d'en arriver au chapitre 14, une Église donc qui se constitue avec ce judaïsme en arrière-plan. Un message, notamment sur l'universalité du péché. Le péché est universel, il touche tout homme, la corruption est totale. Nous avons besoin d'un salut, et d'un salut qui peut être obtenu et ne peut être obtenu que par la foi et non par la pratique des œuvres de la loi. Donc vous voyez déjà une démarcation par rapport au judaïsme. Ce salut sans l'aide de la loi, parce que la loi a comme mérite de révéler le péché, mais qu'elle ne nous aide pas à plaire à Dieu à cause de notre nature qui l'en empêche. Une parenthèse, mais intéressante, parce qu'elle situe bien le contexte et surtout les préoccupations des chrétiens, dont certains étaient d'origine juive. Qu'adviendra-t-il du peuple juif, de ce peuple qui est élu? Et pour certains, pouvaient se dire, moi j'appartiens à ce peuple élu, et l'autre, il n'appartient pas. Est-ce qu'ensemble, on coexiste, on cohabite dans un même peuple? Et donc, Paul traite abondamment cette question, ce n'est pas mon sujet de ce soir, il y aurait beaucoup à dire, mais ça fait partie de l'arrière-plan. Et puis Paul commence à, comme dans un certain nombre de ses épîtres, et celle-ci ne fait pas exception, commence à parler d'un certain nombre de sujets très pratiques, très terre-à-terre. Après avoir développé des éléments extrêmement magistraux dans l'exposé de la doctrine, eh bien, Paul revient sur le sol, terre-à-terre, et nous donne un certain nombre d'éléments pour la vie en Église et également pour la vie en société. Et il va jusqu'à parler des autorités civiles, et il va jusqu'à parler de nos sous et des impôts. Hein. Donc vous voyez que c'est une préoccupation extrêmement concrète de la part de Paul. Alors quelles sont les idées forces de Romains 14, on pourrait dire, tout à l'heure je reprendrai ce mot, à travers les idées forces, c'est-à-dire les choses qui vont ressortir et qui d'ores et déjà commencent à nous donner des éléments pratiques, puisqu'on est dans cette partie pratique, et qu'il s'agit pour nous de nous poser la question, qu'est-ce qui fonde, je le redis, nos relations fraternelles en relation avec la diversité d'opinions possibles. C'est ça qui est intéressant dans ce chapitre, c'est le fait de marier les deux. Alors, première chose intéressante, accueillir. Et vous le voyez dans le verset 1, « Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. » Accueillir. Ensuite, deuxième chose qui est indissociable et qui est dans le verset 1 lui-même, d'ailleurs, vous l'avez vu, ne pas polémiquer, ne pas discuter des opinions. Vous voyez que déjà, Paul, d'une certaine façon, se démarque peut-être de ce qu'il avait vu à Athènes avec ces gens qui étaient là, à l'aréopage, et qui ne pensaient qu'à écouter des nouvelles et en discuter. Et certainement que dans le monde grec, Paul avait côtoyé des discoureurs de cette nature, et Paul se démarque. Deux, et il se démarquait sans discuter des opinions. Attention, je vous fais remarquer une chose, parce qu'on va y revenir plusieurs fois au cours de la soirée. Paul ne dit pas de ne pas avoir d'opinion, mais il dit ne pas discuter des opinions. Et il y a une différence importante sur tout ça, on va y revenir. Donc, Paul appelle à une certaine réserve, une certaine retenue, et il donne des exemples, il parle de la nourriture, dans le contexte particulier de la nourriture qui pouvait provenir de cultes idolâtres. On connaît le contexte dans les chapitres parallèles à celui-là. Je les appelle parallèles parce qu'ils sont vraiment très proches. De 1 Corinthiens, chapitre 8 à 10, on aura ces questions des viandes sacrifiées aux idoles, de la façon de se comporter vis-à-vis de ça. Je ne vais pas en parler, premièrement, parce que ce n'est pas mon sujet, et deuxièmement, parce que c'est le sujet de Sébastien. ne pas mépriser. Donc le fort ne méprise pas le faible. Vous voyez qu'il y a la relation entre un fort et un faible dans ce passage. Vous remarquez ces termes qui sont employés là. Tel autre qui est faible. Donc sous-entendu, il y a un fort. Et le fort ne doit pas mépriser le faible. Alors c'est intéressant de savoir qu'à Rome, à cette époque-là, les païens, et en particulier à Rome, nous disent les historiens, ridiculiser les juifs sur quoi ? Sur des sujets comme la nourriture, les jours que les juifs considéraient comme saints, la circoncision. Comme par hasard, dans cette épître aux Romains, vous voyez que dans ses premiers versets jusqu'au verset 6, il est question de la nourriture, il est question des jours considérés comme saints. Et il faut savoir aussi que dans les deux siècles qui précédaient donc la venue de Paul à Rome et donc le début du christianisme à Rome, beaucoup de juifs étaient morts pour avoir refusé de manger du porc. Donc, détail historique intéressant, il y avait ce contexte. C'était pas quelque chose d'anodin d'afficher finalement ce choix en termes d'alimentation, parce que derrière, il y avait cet arrière-plan. Il y avait aussi, bien sûr, cette charge liée au fait qu'il pouvait y avoir des cultes idolâtres. Vous le savez, si vous avez lu notamment la première aux Corinthiens. Et puis, de même qu'il y a ne pas mépriser, il y a un commandement symétrique de ne pas juger. C'est-à-dire que celui qui est faible, sous-entendu, donc qui va restreindre peut-être plus sa liberté pour des questions de conscience, n'a pas à juger celui qui est fort. Alors, c'est intéressant parce que si on en fait une application sur des situations pratiques, et je vais prendre une situation pratique qui a trait, on pourrait dire, à la nourriture ou à la boisson plutôt, tiens, la situation que suis-je libre de boire de l'alcool ? Je peux très bien dire, oui, je suis libre, ça tombe bien, on est dans un pays viticole, je suis libre, ça fait partie de ma liberté. Et puis, il y a des versets, bien sûr, le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc, j'ai tout ce qu'il faut à ma disposition pour le dire. Mais un autre frère, sœur, va, venant d'un arrière-plan particulier, lui, restreindre cette liberté-là et considérer qu'il n'en use pas. Et qu'il n'en use pas parce que lui-même, ça lui pose un problème de conscience. J'ai connu un ami missionnaaire qui venait de régions assez pauvres des États-Unis, dans les Appalaches, et dont les parents étaient impliqués dans le secours aux alcooliques, et qui, de lui-même, d'entrée de jeu, disait « Moi, je ne bois pas d'alcool, parce que j'ai trop vu les ravages que ça fait. » Et il était convaincu que, voilà, un chrétien pouvait, et qu'il était mieux qu'il s'abstienne. Alors, il laissait la liberté de choix, mais il avait lui-même cette conviction. Il ne doit pas juger, en disant « Tiens, mon frère Jean-Louis, lui exerce une liberté, il boit de l'alcool, quelle liberté intolérable il prend en faisant cela. » Alors ne pas juger non plus un jour supérieur à un autre, les jours tous égaux. Alors c'est quoi cette histoire de jour ? Eh bien, on pense au sabbat. Est-ce que le sabbat est un jour important ? Mais vous savez, il y a plus que ça. Il y a un commentateur de ce texte qui fait remarquer que plusieurs divisions assez fracassantes de l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles, se sont basées sur le choix de la date de Pâques. Quand même assez paradoxal. Choisir la date en mémoire du souvenir de la résurrection de notre Seigneur a pu être une cause de division. À tel point qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une date officielle de Pâques qui est déterminée, je crois que les catholiques et les orthodoxes ont fini par s'entendre là-dessus, et il y a une formule qu'on trouve sur Internet qui permet, quand vous avez un calendrier, que vous voulez calculer les jours fériés, ça m'est arrivé de le faire, d'utiliser cette formule. Il y a une formule officielle de Pâques. Mais avant qu'il y ait ça, il y a eu des divisions. Tout le monde n'estimait pas les jours de la même manière. Au sujet du jour du repos, on pourrait aussi se dire, tiens, la question du sabbat, suis-je tenu au sabbat ? Est-ce qu'il y a un jour particulier au sabbat ? Nous, on le voit d'une manière, je dirais, à l'occidental, moderne, c'est-à-dire que, est-ce que dans nos deux jours de week-end, notre sacro-saint week-end, il y a un jour qui pourrait ou devrait être réservé au sabbat. Mais il faut voir qu'à l'inverse, au temps de l'époque romaine, les Romains considéraient les Juifs comme étant des paresseux. Ils reprenaient à leur compte ce qu'on voit concernant Pharaon en Égypte. Vous savez, en Égypte, au moment où ils ont dit « on veut aller au désert fêter notre Dieu », Pharaon leur a dit « allez, faites des briques, espèce de paresseux ». Vous vous souvenez de ce reproche? Eh bien, ce reproche-là, les Romains le faisaient à l'époque, dans le contexte, aux Juifs. Donc, c'était pas cette histoire de jour, c'était pas une histoire anodine non plus. Elle tombait dans un contexte. Ça coûtait pour un Juif de se faire considérer comme un paresseux, comme un tire au flanc, parce qu'il voulait observer ce jour de repos. Dans les versets 5 et 6, nous avons, à la fin du verset 5, quelque chose qui va être important dans la suite, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée, je lis dans ma traduction, celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe par le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, il rend grâce à Dieu, etc. Donc, cette idée que nous avons à marcher selon la foi que nous avons reçue avec conviction. Et on reviendra sur ça tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez central, marcher selon la foi que nous avons reçue avec conviction. Je vous rappelle que sur cette question de la nourriture, l'un des apôtres, le dénommé Pierre, avait eu une hésitation assez forte au moment où il avait été envoyé chez Corneille, je vous rappelle l'enjeu, ouvrir ou apporter l'évangile au monde des païens. Donc il y avait quand même un enjeu fondamental. Et Pierre hésite et il faut une révélation de Dieu sous forme de cette nappe avec la nourriture, prends Pierre, etc., ne regarde pas ces choses comme impures, pour que Pierre, finalement, vienne à prendre cette nourriture. Apparemment, il l'a fait de bon cœur, mais malgré tout, le sujet n'était pas complètement résolu dans la vie de Pierre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Épître aux Galates, vous le savez, nous voyons que Pierre se rend condamnable d'une attitude ambivalente parce qu'à un certain moment, il se comporte d'une certaine façon. Lorsque les Juifs arrivent, il se met à restreindre sa liberté et ça concerne encore cette question-là d'observation de la loi juive par rapport aux questions de la nourriture et des repas. Agir pour le Seigneur. Alors voilà un principe, une idée force qui ressort. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Nous faisons tout cela pour le Seigneur, parce que nous lui appartenons. Donc voilà quelque chose. Merci. Voilà quelque chose qui ressort. Et puisque nous le faisons pour le Seigneur et que finalement la chose est vis-à-vis de lui plus que vis-à-vis des autres, eh bien nous avons aussi à rendre compte pour nous-mêmes. Et ça, ça introduit quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas à m'occuper des comptes que doit rendre mon voisin. On y reviendra tout à l'heure, ça. Parce que je suis déchargé de cela. C'est le Seigneur qui est le seul juge. Rendre compte pour soi-même. Vous voyez, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Une variante du verset 10 dit le tribunal de Christ, qui pourrait faire référence à l'Épître aux Corinthiens qui parle du tribunal de Christ. Et il est écrit « Je suis vivant, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu ». Donc il y a un côté solennel dans ces comptes que nous avons à rendre à Dieu. Chacun rendra compte à Dieu pour les mêmes. Vous voyez que ces comptes, ils sont individuels. Ce n'est pas une église qui va rendre compte en tant que groupe. C'est chacun qui va rendre compte à titre individuel. Nous avons aussi, dans la suite, vous voyez qu'on est en train de brosser le contenu de ce chapitre 14, le fait de privilégier le fruit de l'esprit sur les règles matérielles. Les règles matérielles, en gros, dit Paul, le manger et le boire. Oui, mais le royaume de Dieu, verset 17, c'est pas ça. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc clairement, Paul met en évidence la supériorité, l'importance, la priorité à donner au fruit de l'esprit sur les règles matérielles. Et nous parlerons tout à l'heure du fruit de l'esprit, et notamment du fruit de l'esprit dans la vie des autres, parce que notre préoccupation doit être là. Privilégier aussi, et je reviens sur les versets 13 à 16, j'ai volontairement inversé l'ordre des versets ici, parce que, quelque part, ce que dit Paul ici, c'est « Ne nous jugeons plus les uns les autres », verset 13, « Usez de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ». Donc Paul nous incite à faire un bon usage de notre intelligence. Au lieu d'utiliser ton intelligence à aller chercher des poux dans la tête ou du poil aux œufs sur ton voisin, utilise plutôt ton intelligence pour éviter d'être un piège pour ton frère, ta sœur. Et vous voyez que les mots de Paul sont forts quand il dit au verset 20 « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu ». Ça m'a fait sursauter ce verset. Je me suis dit « Attends, Paul est en train de dire que je pourrais détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment. Oui, je peux faire du tort à mon frère ou à ma sœur par la façon dont je vais appliquer une loi, dont je vais appliquer quelque chose que moi j'estime bon, sur lequel j'ai moi une conviction, et je peux faire du tort au point de détruire, compromettre l'œuvre de Dieu. Alors voici posées ici, on va dire, les idées forces de Romains 14. Et maintenant, je voudrais examiner avec vous deux choses. D'une part, ce que j'ai appelé l'impossibilité d'une échelle, et je vais expliquer de quoi il s'agit. Et deuxièmement, ce qui sont pour moi des principes d'action qui permettent de comprendre le pourquoi des commandements de Dieu. Parce que c'est bien d'appliquer les commandements de Dieu, mais je vais les appliquer mieux si je comprends quelle est l'intention de Dieu à travers ces commandements. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'impossibilité d'une échelle ? J'aimerais bien, je suis peut-être tout seul dans cette salle, mais j'aimerais bien que finalement, il soit possible d'établir une échelle où je puisse dire, il y a des choses qui sont non négociable, c'est-à-dire là, j'avertis, je me sépare, droit dans mes bottes, je reste pur parmi les purs. Et puis, il y a d'autres choses avec lesquelles ça fait l'objet d'une liberté chrétienne et je suis appelé à tolérer, nous sommes appelés à rester unis. C'est vrai que ça aurait une certaine commodité. Ça permettrait d'assurer une certaine, une certaine discipline, une certaine pureté, on pourrait dire, du peuple de Dieu. Par exemple, ce que j'aurais envie de mettre, et là je vais mettre un certain nombre d'items qui vont apparaître, et je précise tout de suite que l'ordre dans lequel je vais les mettre peut être contestable, de même que les items eux-mêmes, mais voilà comment je pourrais construire. Voilà ce que j'avais commencé à écrire sur mon brouillon il y a quelques mois quand j'ai démarré la préparation de ce bals. Par exemple, je pourrais dire « Ah, attends, il y a quelque chose qui est essentiel. On a dit la parole de Dieu, on a dit le salut par la foi individuelle, c'est toute la base du début de Romains. Il y a un certain nombre de doctrines essentielles. Alors, les premières doctrines, on pourrait dire, de la théologie systématique, Dieu, Jésus-Christ, le salut, le péché, là-dessus. Bon. » C'est clair que si quelqu'un n'est pas sur la même longueur d'onde, si on n'a pas la même opinion sur ces choses, alors c'est grave, alors c'est un problème de doctrine, alors ça mérite discipline, séparation. On peut considérer que c'est une hérésie si quelqu'un ne se soumet pas à ce que la parole de Dieu va dire. Évidemment, en général, c'est moi qui ai la bonne interprétation de la parole de Dieu, mais on va dire que dans certains cas, c'est caractérisable. C'est caractérisable. Donc, effectivement, ce premier point, vous pourrez dire, oui, bien sûr, on applaudit les deux mains sur le fait que les doctrines essentielles devraient être quelque chose qui nous réunit. Par exemple, on pourrait aussi dire, et dans les siècles passés, c'est intéressant de voir comment sont nées les confessions de foi. Elles sont nées suite à des conciles dans les premiers siècles, dans lesquels ont émergé des formulations succinctes du contenu de la parole de Dieu et de la révélation, qui permettait, en peu de mots, de se mettre d'accord sur l'identité du Fils, à la fois pleinement homme, pleinement Dieu, enfin, tous ces articles qu'on connaît et qui sont utiles, qui ont une utilité. Je ne suis pas en train du tout de nier et de dire, bien sûr, que ces choses sont inutiles. Au contraire, bien au contraire. Après, Après, je pourrais dire, tiens, il y a aussi des doctrines, allez, appelons-les secondaires. Alors, j'en ai listé quelques-unes, il y a bien sûr des pointillés, mais la fin des temps, est-ce qu'on est d'accord sur la fin des temps? Est-ce qu'il faut qu'on soit tous d'accord sur la fin des temps dans une même communauté locale? Les rôles que peuvent avoir l'homme et la femme, le sabbat. Et vous voyez que là-dessus, on va trouver dans les dénominations, ou même à l'intérieur d'une dénomination, ou même à l'intérieur d'une communauté, des sensibilités et des opinions qui vont pouvoir varier. Après, il y a ce qu'on pourrait appeler les doctrines discutées. Alors, j'ai fait une petite différence, c'est mon petit vocabulaire à moi, hein, mais entre les doctrines que j'appelle secondaires, mais dans lesquelles un observateur, je dirais, imprégné de l'interprétation de la parole de Dieu, ne peut pas, finalement, même si ça va à l'écart de la pensée et du temps, trouver autre chose, des doctrines que j'appelle discutées, c'est-à-dire, ce que j'appelle une doctrine discutée, c'est plusieurs interprètes honnêtement convaincus de l'interprétation de la parole de Dieu et, je dirais, bien informés, ayant bien étudié le sujet, sont parvenus à des opinions différentes. Et chacun présente son opinion. Et quelque part, à moins d'avoir un bac plus 14 et encore en théologie, en grec, etc., j'arrive plus à faire la part des choses. Je sais pas et je peux pas caractériser s'il y a une bonne opinion d'une autre. Et vous voyez que si je commence, et plus je descends dans cette liste, si je vais dans cette liste vers ces choses, vous voyez que les bases sur lesquelles je vais fonder ma capacité à m'entendre avec mon frère, ma sœur et à le côtoyer deviennent de plus en plus fragiles ou subjectives ou personnelles, affaires d'opinion, en somme. Je pourrais dire, tiens, il y a l'organisation de l'Église, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des frères? Est-ce qu'il y a un pasteur? Après, attention aux mots. Ça veut dire quoi, un pasteur? Il peut y avoir un plein temps qui a le rôle de pasteur vis-à-vis des autorités civiles, pour la commodité. Mais vous avez des églises, pour avoir côtoyé des églises, un certain nombre d'églises, il y a des églises où il y a un pasteur qui ont un fonctionnement plus collégial que des églises où il y en a qui sont plus frères que les autres. Et on est frères, et il n'y en a pas un qui est devant les autres, mais en pratique, tout le monde sait qui décide. Alors, ça continue. Ce matin, notre frère nous a parlé à propos de la politique et de l'implication du chrétien dans la cité, de tout ce qui est l'éthique chrétienne, et je dirais tout ce qui va entre la vie et la mort. En gros, la naissance, la vie, la fin de vie. Derrière tout ça, vous voyez qu'on pourrait dire... Ah oui, mais ça, c'est des points extrêmement importants. Et même, on pourrait protester en disant, mais par rapport à la liste qu'il y a avant, ça a des implications pratiques plus importantes, par exemple, que la fin des temps. Parce que très franchement, avoir une opinion sur la fin des temps, oui, j'en ai une, vous en avez une aussi, mais je veux dire, à part veiller et prier, la conséquence pratique sur la fin des temps, oui, certes, je vais comprendre l'actualité, Pierre-Henri l'a rappelé, mais au fond... Ça implique peut-être moins que ces questions-là, qui sont des questions de société dans lesquelles je peux avoir des dilemmes douloureux, y compris dans ma propre famille, y compris avec des non-chrétiens. Et là, ça va être important. Est-ce que ça, c'est un élément? Vous voyez, on est toujours sur cette échelle. Et le titre, c'est « L'impossibilité d'une échelle », je ne perds pas ça de vue. C'est de dire, est-ce qu'on saurait, sur cette échelle-là, dire « Ben oui, il y a des églises qui sont fidèles à Dieu parce qu'elles défendent telle chose et d'autres, elles ne défendent pas telle chose ». Les sujets de société. Alors, par exemple, les sujets de société, prenons un exemple, la peine de mort. Ça, c'est un sujet du bac, mais je veux dire, la peine de mort est-elle oui ou non, selon la parole de Dieu? Bloom, on peut faire un débat et on peut avoir des opinions. Et selon ce que disait d'ailleurs Père Henri, est-ce que la société est là plutôt pour réprimer, protéger, et donc elle pourrait appliquer la peine de mort? Est-ce qu'à l'inverse, on va dire, non, c'est Dieu qui enlève la vie, et donc on n'a pas le droit de le faire? Vous voyez que ça peut être un sujet. À propos des engagements politiques, on pourrait dire, est-ce qu'un engagement national de député ou de ministre, c'est quelque chose qu'on conçoit comme étant un appel possible d'un chrétien? Voilà. Est-ce qu'on est prêt à le soutenir? Est-ce qu'on considère qu'il se compromet parce qu'il est dans un système de parti dans lequel il sera forcément compromis avec des puissances autres que la vérité de l'Évangile est donc amenée à avaler des couleuvres et à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un chrétien. Si on va plus loin, en ce qui concerne la vie dans la cité, la vie sociale, dans l'engagement local, je fais la différence, un peu la même que celle que Pierre-Henri a faite, en disant, il nous a dit ce matin, moi je suis aujourd'hui conseiller municipal, je ne me verrai pas au niveau d'en dessus pour des raisons, que c'est chronophage, premièrement, et il nous a dit aussi, si vous avez bien écouté, parce que derrière, ça m'amènerait certainement à ces compromissions qui, selon ma conscience, ne sont pas acceptables. Alors on pourrait dire, télé, cinéma, loisirs, par exemple, tiens, selon la latitude, la tauromachie, la France du Nord va peut-être dire, mais c'est un loisir abominable de regarder souffrir un animal et de le faire souffrir. Peut-être que dans certains endroits, plus, plus proche de l'équateur, on ne verra pas forcément les choses de la même façon. On va dire non, c'est une tradition. Voilà. Est-elle pour, est-elle contre l'Évangile ? Jusqu'à quel point ? Est-ce que ça pourrait être une base ? On est en train de dire une base qui dirait lui, il défend la tauromachie, je ne prends pas la Sainte-Seine avec lui. Et on n'est plus chrétien dans la même église. Vie personnelle. Est-ce qu'un chrétien, jusqu'où peut-il participer, par exemple, aux réseaux sociaux ? Et là, vous voyez qu'on va atteindre une autre fracture qui ne sera pas géographique, celle-là, mais qui peut être générationnelle. À savoir que des générations qui ont participé et sont nées avec ces moyens-là ne vont pas forcément évaluer et se comporter vis-à-vis de ça de la même façon que des générations plus anciennes. Un jeu vidéo, est-ce que des chrétiens peuvent participer à des jeux vidéo et des jeux vidéo en ligne ? Ben, y a des jeunes chrétiens qui, parfois, jouent des rôles positifs dans des jeux vidéo en ligne et arrivent à rencontrer des participants du monde virtuel ensuite dans le monde réel parce que ces rôles positifs ont interpellé et que ça a été un point de départ du témoignage. Alors, bien sûr, vous m'avez compris, il ne faudrait pas que ça devienne un prétexte pour dire ma passion est le jeu vidéo. Donc, mais c'est une chose qu'il va falloir évaluer. Est-ce que sur cette base-là, sur la base de ces choses, et vous voyez qu'on est parti de choses totalement fondamentales pour arriver vers des choses qui relèvent un peu plus de la liberté individuelle, de la responsabilité aussi de chacun et du comportement, est-ce que je vais pouvoir, à un moment donné, mettre une barrière ? Eh bien, très franchement, je pense que chacun de nous mettrait la barrière à un endroit différent, et peut-être même en ayant inversé certains des points qui sont là. Si nous étions très étroits, peut-être que nous dirions, finalement, on va être assez strict, on va être assez sévère, et au bout du compte, on va se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Je vais être avec des gens qui me ressemblent. Au bout du compte, je peux même finir par me retrouver tout seul. Et ce que nous dit, vous le savez, Proverbe 18, verset 1, hein, on peut lire ce verset, mais il est intéressant parce qu'on voit la conséquence ultime dans Proverbe 18, verset 1. Je ne l'ai pas affiché, donc on va le chercher. Proverbe 18, verset 1 nous dit la chose suivante, vous connaissez, « Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir, il se déchaîne contre toute raison. » Donc si je suis à l'écart, finalement, au bout d'un moment, je me fais plaisir à moi-même, je suis ma propre référence, il n'y a plus personne pour me challenger, il n'y a plus personne pour se frotter à moi. Et donc, vous voyez que c'est ça l'Église ? Ben non. L'Église, c'est une société, c'est intéressant, c'est une société particulièrement hétérogène. Si vous réfléchissez à ce que sont les associations, même les entreprises, avec la façon dont elles recrutent, il y a une certaine homogénéité de vocabulaire, d'objectifs, d'opinions, d'une certaine manière, qui facilitent la vie en commun. Il y a quelque chose qui rassemble les personnes. Dans l'Église, Dieu a constitué un corps extrêmement varié, une composition très très large. Mais il est évident que si je suis trop large aussi, il pourrait y avoir à terme des tensions et même un problème d'identité du groupe. C'est-à-dire que si je vais trop loin et que par rapport aux doctrines essentielles, je commence à dire, oui, mais tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, alors je vais être dans la dilution même de la vérité, des choses essentielles, et je ne peux pas aller jusque-là. Donc, c'est bien ma difficulté. Et derrière tous ces sujets qui sont là, vous voyez que la difficulté de les aborder, et c'est pour ça qu'on va revenir sur la question d'avoir des convictions et de les partager, derrière tout ça, vous voyez qu'il y a autant de bons potentiels qui pourraient faire exploser une unité fraternelle, une communion fraternelle à un instant donné. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est de pouvoir garder nos convictions. Vous vous souvenez que, et je vais revenir parce qu'on l'affichera tout à l'heure, mais dans je vais revenir sur ma liste, voilà, là. Dans la cinquième, là, marcher selon la foi reçue avec conviction, cette cinquième idée force m'amène à me dire, la Bible n'interdit pas d'avoir des convictions. Et m'interdit pas d'avoir une conviction qui est contraire à celle de mon voisin de banc. Mais la question qui est posée, c'est jusqu'où je la partage, jusqu'où j'en discute. Et quand je dis je la partage, c'est le double sens du mot, c'est jusqu'où j'en fais part, partager dans ce sens-là, et jusqu'où je l'ai en commun aussi. Est-ce que j'ai besoin de l'avoir en commun avec mon frère, ma sœur, pour marcher avec lui ? Jésus-Christ a constitué l'Église en abattant des barrières, et nous savons qu'il y a des barrières extrêmement importantes qu'il a abattues. Éphésiens 2 nous en parle en disant qu'il y a eu un mur, carrément, un mur de séparation entre les païens et les juifs. Est-ce que nous sommes appelés et amenés à reconstruire ces barrières ? Alors, suite à ça, ce que, quand je vous dis, oui, j'avais encore ce dernier, mais disons, voilà, on peut en rajouter d'autres, hein, d'autres encore, Est-ce que nous pouvons avoir des convictions ? Oui. Bien sûr que oui, nous pouvons et nous devons avoir des convictions. Mais il se peut que, donc sur ces sujets-là, je ne pense pas qu'un chrétien, il ait à dire, parce que je suis appelé à côtoyer d'autres qui ont des convictions différentes, alors je vais relativiser ce que je crois être la vérité. Non, je suis arrivé par l'étude de la parole de Dieu, par ma vie personnelle, en utilisant soigneusement l'intelligence renouvelée que le Seigneur m'a donnée, je suis arrivé à ces convictions, je les ai et je les garde. Par contre, la question c'est, n'élevons pas des barrières au sein de nous par des barrières inutiles par le biais de ces convictions. Alors, ce que je vous propose comme façon de, je dirais, de décrypter ce passage de l'Épître aux Romains, c'est la chose suivante. D'abord, il y a un socle. Le socle, c'est les premiers chapitres de cet Épître. Et je dirais que, pour moi, il y a un socle qui est vraiment la base de tout, c'est le salut individuel par la foi, parce que si je ne suis pas sur cette base-là, enfin, c'est tout le développement de Paul au début de l'Épître aux Romains, je suis à côté. Ensuite, j'ai ces 9 idées forces. Et vous voyez, je les ai reprises ici, c'est les intitulés qu'on avait tout à l'heure sur la diapo. Et vous avez au milieu d'entre elles, la cinquième, qui est de marcher avec conviction selon la foi reçue. Donc, des idées forces et des convictions que je vais avoir, mais avec, et nous allons voir le développement de tout ça, quelque chose qui concerne la relation à l'autre. Et là, on va aborder maintenant, et on va arriver sur cette partie de la relation à l'autre. Parce que jusqu'à présent, vous voyez que le danger et le défaut d'une approche qui est fondée seulement sur les doctrines et sur les opinions, c'est qu'elle ne fait pas justice, elle ne tient pas compte de ce qui finalement est important, c'est la relation à l'autre. Ça ne veut pas dire que la relation à l'autre doit se faire sur une base ambiguë au détriment de la vérité, mais la relation à l'autre doit être impérativement considérée dans la façon dont je me comporte dans l'Église avec les convictions que j'ai. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant de reprendre d'une autre manière ce chapitre 14 en disant quels sont les principes d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui, au fond, nous dévoile l'intention de Dieu vis-à-vis de nos relations fraternelles, qu'est-ce qui permet de mieux comprendre le pourquoi de ces commandements. Un frère qui commente ce passage nous dit « Il y a des dégâts nombreux et importants si il y a un manque d'attention entre ce que Paul appelle ici les forts et les faibles, et il cite l'achoppement, la chute, hein, chapitre, verset 13, verset 20 et 21, la tristesse, verset 15, la perte, hein, on a perdu le frère, verset 15, la calomnie, c'est très fort aussi ça, verset 16, la destruction, on l'a déjà souligné, verset 20, la condamnation, hein, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même, le péché même, verset 23. Alors, je vous propose trois principes d'action. Le premier principe d'action, je l'ai formulé de cette façon. Il est possible d'avoir des convictions opposées tout en vivant ensemble en paix. Alors, bien sûr, pas sur les points les plus élémentaires, et je vous laisse le soin de voir à quel niveau, mais il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels je peux avoir des convictions opposées, différentes. Et ce que je suis en train d'affirmer là, ce n'est pas une affirmation gratuite. Si je prends le chapitre 14 de Romains, faut bien comprendre une chose, c'est que celui qui mangeait et celui qui ne mangeait pas, dans un repas fraternel, ça pouvait jeter un froid. Celui qui considérait les jours tous pareils et d'autres pas tous pareils, dans la vie de l'Église, dans les réunions et dans le rythme de la vie en général, en société et dans l'Église, ça pouvait aussi présenter des implications pratiques importantes. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de se dire « la foi est une affaire privée, j'ai une conviction, je la garde ». Parce que dans certains domaines, oui, ça peut être le cas. Mais là, en l'occurrence, il y avait quelque chose qui se matérialisait, qui se voyait. Et Paul nous appelle clairement ici à dire « si je suis à côté de mon frère, il mange pas, je mange pas, on se méprise pas, on se juge pas ». Ça va loin. Ça va loin. Et ça va loin pour... Alors, donc ça veut dire, déjà, voilà, il y a quelque chose dans la relation fraternelle qui va compter. Vous voyez qu'on est en train d'introduire quelque chose d'important, c'est il y a l'opinion, la conviction, certes, mais aussi la relation. Et quelque part, Dieu m'appelle à cultiver et à développer les relations. Et un des messages de ce chapitre, c'est justement ça, c'est de dire... Regardons toute cette expression de nos convictions, de nos opinions, avec le filtre, le bon filtre de la relation à l'autre. Deuxième chose que Paul nous invite à faire, et c'est particulièrement visible, bon, déjà verset 4, mais déjà même verset 3, Dieu lui a fait bon accueil, le Seigneur a le pouvoir de le soutenir, verset 5, il s'en préoccupe par le Seigneur. Replacer le Seigneur au centre de la relation, parce que c'est lui le juge. C'est lui le juge, c'est-à-dire je suis débarrassé d'un problème épineux, c'est comment juger et évaluer l'autre. J'en suis débarrassé. Je n'ai pas à focaliser mon attention là-dessus, c'est le Seigneur qui s'en occupe. C'est lui qui s'occupe de ça. Et donc je vais pouvoir me consacrer, moi, à une relation de qualité. S'il se tient debout ou s'il tombe, ça regarde son Seigneur. Mon affaire. Alors, bien sûr, si un frère est dans le péché, je vais l'avertir, parce qu'il y a des passages de la parole de Dieu qui me montrent comment l'avertir avec amour. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Il s'agit d'une conviction dans laquelle il n'y a pas un péché caractérisé. Et là, dans ce cas précis, je vais pouvoir me consacrer à une relation de qualité avec mon frère sans me dire « est-ce que c'est lui qui a tort ? Est-ce que c'est moi qui ai raison ?» Enfin, chacun devant le Seigneur, avec la conviction qu'il a reçue. Et vous avez vu que deux peuvent honorer Dieu, et ça c'est particulièrement visible dans ce chapitre, deux peuvent honorer Dieu avec des convictions contraires. C'est quand même incroyable. La façon dont le Seigneur nous voit par en haut, vous imaginez deux personnes qui ont une conviction contraire sur certaines choses, et ils honorent Dieu tous les deux. On a du mal à envisager ça, nous, avec notre propre compréhension. Donc c'est lui qui est le juge. Et vous voyez que, du coup, la relation n'est plus la même, parce qu'il y a un tiers dans la relation. Et ce tiers, c'est le Seigneur. Et toutes les fois que j'ai évacué le Seigneur de la relation et que la relation s'est devenue quoi ? Un choc des égaux ? Un dominant-dominé ? Une puissance d'argument ? Non, je dois tenir compte et prendre en compte l'autre. Et le faire parce qu'on est sous le regard du Seigneur, parce que le Seigneur est appelé à être au centre de la relation. C'est lui le juge, c'est pas mon affaire de juger l'autre. Et puis, troisième principe, le principe de mettre les autres en priorité par rapport à nous. Vous savez que Paul en a déjà parlé dans le chapitre 12 de Romains, lorsqu'il nous dit, verset 10, « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Nous sommes appelés à être prévenants, c'est-à-dire à aller au-devant du besoin de l'autre, parce que nous le considérons comme supérieur à nous. Et Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, Paul va plus loin, Philippiens 2, et c'est intéressant parce que là, on a l'exemple aussi de Jésus-Christ, et je pense que il est important de le suivre, notamment dans le contexte du sujet de ce soir. Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. » On pourrait en parler dans l'expression de nos opinions et convictions. « Rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. » Hein, on a parlé de l'humilité dans une présentation précédente. On a un prolongement là. Une manifestation de l'humilité, c'est quand j'estime les autres supérieurs à moi-même. Et derrière, ayez en vous, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mon propre intérêt, c'est peut-être de faire triompher ma conviction. C'est comme ça que je le vois, en tout cas, mon intérêt. Mais c'est quoi l'intérêt de l'autre? Est-ce que je suis prêt à détruire la qualité de la relation avec l'autre? Parce que je veux exprimer absolument une pensée qui me tient à cœur. Et nous avons cet exemple de Christ, et nous sommes appelés à avoir en nous la pensée qui était en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5, vous connaissez bien le passage, « Lui, dont la condition était celle de Dieu, etc. il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. » Donc mettre les autres en priorité par rapport à nous. Et je terminerai donc avec le schéma d'ensemble. Pour résumer ce que nous avons vu ce soir, un socle qui est le salut individuel par la foi reçue donc dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, la croix. 9 idées forces sur la façon de nous comporter. Et vous voyez que dans ces 9 idées forces, il y a déjà en filigrane, maintenant qu'on a vu l'ensemble, il y a non seulement l'expression des convictions et des opinions, mais aussi la préservation et même le développement de la relation. Et puis, ces principes que je résume en disant la paix avant les opinions, le Seigneur au centre, les autres en priorité. Merci de votre attention.